13 Passions, une émission de Roger Bouichou, présentée par Denis Arcas et Roger Bouichou, sur Radio Marseillaise 101.3.
Bonjour messieurs.
Bonjour Nicole, bonjour Denis.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nicole, bonjour Roger. Je t'entends très loin Roger.
Ah pourtant je suis très près. Hein.
Ah bon, ça va mieux, parle plus fort.
Bon, je vais crier. Ah
non, non, ça va.
Oui.
On t'entend, très bien. Bon,
voilà,
bien,
13 Passions, le magazine du rugby à 13, le seul magazine du rugby à 13 dans les médias français. Mais en Europe, mais allez, soyons fous. Deuxième volet de la campagne pour les élections fédérales à la Fédération française de rugby à 13. On se souviendra que la semaine dernière, nous avions reçu André Jean-Zac, Denis l'avait interviewé, moi-même un petit peu. Et aujourd'hui, eh bien, c'est au tour de la liste de Fabien Lambert, Denis.
Eh oui, alors rappelons que pour ceux qui ne l'ont toujours pas écouté, depuis mardi, on peut écouter en podcast l'émission de la semaine dernière. Donc vous pouvez la diffuser en podcast, c'est en différé. Et il en sera de même pour l'émission de ce soir. Elle sera mise en différé. On pourra les réécouter à partir du début de la semaine prochaine, certainement mardi, Roger.
Oui, c'est certainement mardi, oui.
Voilà, donc vous pouvez dire autour de vous, si vous avez des personnes qui n'ont pas pu écouter en direct ces deux émissions, eh bien, ils peuvent toujours, elles seront toujours à l'antenne, elles sont sur le site internet marseillaisefm.com. Et puis rappelons que dans 15 jours, le vendredi 20, nous recevrons le troisième et dernier candidat, tête de liste, Luc Lacoste.
Voilà, alors avant de rejoindre Fabien Albert, je vais me retourner notre belle, délicieuse et charmante Nicole pour une page de pub de nos partenaires. Hein. Et après, on attaque une suite.
On vit grâce à eux. Hein.
Ah oui, on vit grâce à eux, c'est exact. Nicole.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par...
Une poissonnerie à Carcassonne, Sabine et Thierry Banquet vous proposent une grande variété de poissons frais et ses plateaux de fruits de mer à emporter. Fraîcheur et qualité au rendez-vous. 110 avenue du Général Leclerc, 04 68 25 43 85.
Issu de 7 générations de menuisiers dans l'Aude, sur Carcassonne et Ville-Gaillenc, l'ASARL Menuiserie Tiquet et Fils vous propose une réalisation parfaite de qualité pour vos portes, fenêtres, claustrats, armoires et blocs de rangement. Aménagement divers et cuisine, multi-travaux spécifiques, de la conception à la pose. SARL Tiquet et Fils, menuisier aménageur, avenue du Lauragais, 11 600 Ville-Gaillenc, 04 68 77 14 08 et info@tiquet.fr ou site internet www.tiquet.fr.
Allez, Nicole, est-ce que nous avons notre invitée en ligne?
Elle est arrivée.
Elle est arrivée. Bonjour Fabien Albert.
Bonjour.
Voilà,
bonjour Fabien Albert.
Oui, bonjour, c'est à votre tour. C'est à votre tour de nous parler de votre liste et de votre programme. Et pour cela, j'ai mon adjoint là, qui bout d'impatience pour vous interroger. Et je vous le laisse danser. Je vous le mets dans vos bras. Denis.
Oh, merci beaucoup.
Denis. Oui, bonjour Madame Albert. Donc, voilà, alors nous, disons, vous aurez une heure un peu plus. Allez, la semaine dernière, ça avait duré 1h05, donc on va essayer de rester à peu près dans ce tempo. Alors, 1h05, c'est long, mais en même temps, ça passe vite. Hein. Allez, on va démarrer de suite, si vous le voulez bien, par une première... on va vous demander de vous présenter en quelques mots. Hein. Vous êtes bien connu, hein, mais enfin, rappelons pour ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas encore.
D'accord, mais pas de souci. Donc, je m'appelle Fabienne Albert, j'ai 48 ans, j'habite à Cavanac, à côté de Carcassonne. Voilà, je suis mariée, j'ai 3 enfants, un garçon qui joue au rugby à 13, donc Lucas, qui est au Dragon catalan, et puis 2 filles derrière, Emma et Léna, et Marie qui est très investie au sein de, du club de Carcassonne. Voilà. Et je suis, mon métier, c'est conseillère pédagogique départementale. Alors, je suis spécialisée en langue et culture régionale et en fait, je forme les enseignants sur le département de l'Aude. Voilà.
Voilà. Et, bon, rappelons, vous êtes actuellement secrétaire général de la Fédération française de rugby à 13.
Tout à fait. J'ai fait, donc, j'ai été élue sous la mandature de Marc Palanque avec l'équipe très unie de Marc. Et j'ai occupé le poste donc, de trésorière la première année. Et puis, voilà, ça fait 3 ans donc, que je suis secrétaire général de la Fédération.
Alors, bien, voilà. Donc, quelles sont les... première question, après cette présentation, justement. Quelles sont les raisons qui vous poussent, après avoir... vous êtes investi pendant 4 ans... à côté de Marc Palanque. Cette fois-ci, quelles sont les raisons qui vous poussent à vous présenter, à franchir le palier, à vous présenter comme tête de liste, donc à postuler, avoir créé une liste donc, que vous menez, et donc à postuler à la présidence de la Fédération française de rugby à 13.
Tout d'abord, comme vous l'avez dit, je me suis investie pendant 4 ans sous la dernière mandature, avec pas mal de collègues d'élus aux côtés de Marc, et puis en ayant occupé les postes quand même de secrétaire et de trésorière, je pense que j'ai une bonne connaissance de ce qu'est la Fédération française de rugby à 13. On a beaucoup échangé avec les membres de élus avec moi actuellement sur ce que l'on avait on allait faire, hein, puisqu'on savait que Marc n'allait pas se représenter. On avait aussi un goût d'inachevé par rapport à ce que l'on avait comme projet. Donc on a voulu effectivement aller continuer l'aventure parce qu'on avait d'autres on avait d'abord des actions à terminer et puis des propositions aussi pour aller plus loin. Voilà, donc je pense qu'on a beaucoup discuté avec mes camarades là, et puis effectivement c'est mon nom qui est sorti, j'avais pas plus d'ambition que ça, pas plus d'ambition qu'un autre, disons, mais pourquoi, voilà, je me suis dit pourquoi pas, et c'est vrai que bon, voilà, je me suis présentée, je me présente cette liste, par contre, voilà, mon souhait, c'était d'avoir une liste qui soit complète, qui soit des gens composés de personnes qui soient complètement désintéressées et puis qui aient des compétences dans des domaines divers. Donc voilà. Donc du coup, je pense que j'ai une liste qui tient la route. Je suis bien épaulée et moi-même, je me sens vraiment investie à fond là-dedans. Et plus ça va et plus je pense que j'ai fait le bon choix.
Alors justement, Fabien Albert, excusez-moi Denis,
oui.
Justement, Fabien Albert, est-ce qu'avant que Denis vous pose des questions plus précises, est-ce que vous pouvez nous annoncer les composants de votre liste?
Oui, oui, bien sûr. Alors, donc on a constitué une liste avec un tiers du actuel qui repartent et une liste renouvelée aux 2 tiers. Donc, pour ceux qui restent de la dernière mandature, donc il y a Éric Vergnol, que vous connaissez hein, tous, je pense, hein, qui est un joueur, grand joueur PSG, qui a joué aussi à Kendrax, qui est sur le club de Tonnes et qui s'occupe plus précisément cette année de la CNJ, de la Commission nationale des jeunes. Georges Rayon aussi, qui repart avec nous, qui lui est impliqué aussi dans la CNJ et qui est au club de Grasse, en Bouches-du-Rhône. Jean-Claude Nadeau, qui nous avait rejoint suite aux démissions de certaines personnes. Jean-Claude Nadeau, pareil, hein, qui avait été un des fondateurs de l'école de rugby de Bao, donc qui est avec nous. Jérôme Rouget, pareil, les Audois le connaissent, hein, qui était sur la section des jeunes de Limoux. Xavier Fabre, le docteur fédéral actuel qui est de Rouen, hein, donc qui repart avec nous aussi. Mathieu Pédini, qui est actuellement le vice-président de la fédération et qui est en charge plus particulièrement du niveau. Xavier Vasson, qui lui est président de la Ligue PACA, et qui occupait le poste avec nous, qui s'occupait de tout ce qui était organisation, événementiel. Et puis Daniel Guinguet qui était en charge des compétitions calendrier, plutôt sur l'ADN et la fédérale. Donc nous rejoignent sur cette liste Cindy Désérable. Cindy, c'est une Toulousaine. Alors elle est audoise, en fait. Elle a déménagé dans l'Aude, mais elle travaille sur Toulouse. Elle a été responsable du centre de formation du Théo. Et elle est maintenant sur. Elle est préparatrice mentale et sophrologue. Hein. Khaled Maïza, on est content de l'avoir parce qu'enfin quelqu'un de Paris qui bosse, qui fait du boulot, c'est donc Khaled, c'est le président, jeune président de Corrie-Essonne. Laurence Arbouin de La Réole. Hubert Sonny qui est l'ostéopathe de Carcassonne 13, mais aussi de l'équipe de France U17. Grégory Simon, tout jeune aussi, président, co-président de club de fédéral à Saint-Estève, qui est reparti cette année. On a Chantal Ruidavé, la toute nouvelle présidente de Toulon, du club de Toulon. Michel Clausier, qui lui est le président du comité de la Haute-Garonne. Nous avons Carole Mazot, qui est dirigeante à Villeneuve-sur-Lot. Rémi Dufour, qui est l'actuel manager du TIO. On a Patrick Barbier qui n'était pas élu avec nous, mais qui avait déjà fait un très gros travail, puisqu'il est président de la commission de 13 fauteuils. Lise Mfoudi, qui est actuel manager de l'équipe de France féminine. Éric Tignol, qui est le président de l'école de rugby de Bao. Gwendoline Signaco, qui nous a rejoint également, et qui était le dirigeante en U19 au SO Avignon. Georges Clément, qui est manager et joueur de l'école du club du SOA également, qui avait fait un passage par Carcassonne il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et puis Ludovic Loine qui nous a rejoint et qui lui est président du club des Lions Rocassiers qui se trouve donc à La Roque d'Anthéron, et c'est un club de 13 fauteuils. Voilà la composition de notre liste. Je pense que je n'ai personne.
Denis.
Très bien. Bon, alors, avant d'aborder quelques points que subjectivement nous considérons, nous, comme très importants et que sur lesquels nous vous interrogerons plus en détail, voilà, moi je vous propose que vous nous définissiez d'une façon générale la philosophie de votre programme. Et peut-être que en insistant sur quelques points, puisque autre que ce qu'on va aborder, puisqu'on va aborder, je le dis de suite, les finances, la communication, l'extension du mouvement, la formation, le haut niveau, les compétitions d'élite. Voilà, ça, là on va sur ces sujets, on va revenir en détail. Donc, si vous avez une philosophie générale à définir et quelques points différents de ceux-là sur lesquels vous voulez insister. Vous pouvez y aller. Et en même temps, je vous pose la question qui venait derrière. Je sais, j'ai vu votre programme, mais il y a une grande partie qui est basée sur le bilan de la mandature actuelle, ce qui est normal puisque vous êtes sortante. Mais est-ce que vous pouvez nous préciser, par rapport à votre programme pour les 4 ans à venir, est-ce que vous allez vous situer dans une prolongation très stricte de ce qui a été fait jusqu'à présent, ou est-ce que vous allez apporter un certain nombre de nouveautés et peut-être une petite bifurcation dans la politique actuelle.
Voilà, tout à fait. Alors écoutez, effectivement, je l'ai dit en début d'interview, on s'est positionné parce qu'on a pensé qu'on n'était pas allé au bout de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on allait faire. Donc effectivement, on va être un peu dans la continuité, tout en injectant, comme vous l'avez dit, de nouvelles choses. Et notre programme, alors oui, c'est vrai qu'on a un bilan à défendre, et ce bilan, on est fiers de le présenter parce que quand même, il a à tout point, on a évolué. Alors, c'est vrai qu'on a, on avait attaqué énormément de chantiers. Il y avait beaucoup à faire, hein, et donc on n'est pas allé au bout de ces chantiers-là. Donc oui, on va s'inscrire dans la continuité, mais également avoir des propositions, mais qui vont concerner en fait tous les niveaux, parce que je pense que le point fort en tout cas de notre équipe, c'est qu'elle connaît très bien le rugby à 13, c'est qu'on connaît très bien tous les dossiers, et que c'est vrai qu'on a énormément... de chantiers ouverts, donc nous, nos priorités, ben il y en a plusieurs, hein. D'abord les écoles de rugby, et vous l'avez dit, l'augmentation du nombre de licenciés, avec alors il suffit pas de dire, hein, qu'on a envie que le nombre de licenciés augmente, ça je pense que tout le monde est dans le même état d'esprit, hein, effectivement, mais encore faut-il s'en donner les moyens. On a commencé à installer pas mal de choses, et peut-être on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je voulais appuyer beaucoup là-dessus, parce qu'on peut parler de grands projets professionnels, de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, si on n'a pas la base, on ne fait rien. Parce que ce sont nos écoles de rugby qui nous sortent quand même les grands joueurs et les futurs joueurs qui composeront nos grandes équipes, qu'elles soient équipes d'élite 2, de DN, de fédérale, de féminine, de fauteuil, d'élite 1 bien sûr, et puis on a des joueurs qui vont sortir sur le très haut niveau, et donc ils vont évoluer dans d'autres championnats que sont sûrement la Championship et la Super League, voire la Ligue 1. Mais effectivement, nous, on met l'accent énormément là-dessus, hein, sur le développement des écoles de rugby, en proposant un développement d'accès à la pratique, notamment la mise en place du rugby à 9 pour les U15 et les U17, parce qu'on sait bien que c'est très difficile pour une équipe et un club d'avoir, quand ils débutent en tout cas, d'avoir un nombre de licences suffisant pour pouvoir jouer d'entrée à 13. Donc l'important, c'est de conforter notre base, de proposer aussi du neuf, et puis d'étendre en fait une grosse proposition, c'est d'étendre les protocoles d'entente entre les clubs, puisqu'actuellement on ne peut faire de protocoles d'entente qu'avec deux clubs. Donc nous, l'idée, ça sera d'en mettre plusieurs, d'en mettre trois, pour pouvoir démarrer un championnat à 9 et puis ensuite basculer sur du 13. Bon, il y a ça. On a mis quand même en place tout ce qui était des offres de parrainage. Hein. Il faut savoir que depuis le début de la saison, là, cette offre de parrainage, elle court dans les écoles de rugby des plus petites catégories jusqu'au U17. Et en fait, chaque licencié qui va amener un nouveau licencié dans sa catégorie ou dans une autre catégorie reçoit un bon d'achat à la boutique conséquent, et donc 25 euros jusqu'à U13 et puis 60 euros jusqu'à U17. Tout ça, c'est pour essayer d'amener de nouveaux licenciés, et puis de toujours pouvoir augmenter et fidéliser les joueurs. Effectivement, il y a aussi, on a déjà, vous le savez, Amy, depuis quand on est arrivé, hein, l'opération un ballon pour chaque enfant, auquel on a ajouté un protège-dents. On doit absolument aussi, hein, dans les écoles de rugby, s'emparer du baby 13. Il y a des écoles de rugby qui l'ont fait également. Et puis nous, notre gros, je pense que le gros projet qu'on a, c'est d'étendre et de continuer, d'étendre surtout les conventions d'objectifs qui nous permettent de multiplier les actions des ATD sur le territoire. Hein, voilà. Ensuite, on est toujours évidemment sur des propositions pour le projet sportif, hein, avec des installations aussi donc je l'ai dit, hein, faciliter les protocoles d'accord. On voudrait installer de nouvelles compétitions sur l'élite 1 masculine, les U19 et les U17. Donc je parlais du 9 tout à l'heure, parce que c'est important ce 9, parce que vous savez, le 15 est rentré aux Jeux Olympiques, est devenu sport olympique par le biais du 7 et pas par le biais du 15. Et donc nous, l'idée, c'est de rentrer par le 9. Et on a déjà vu se mettre en place la compétition, la Coupe du Honda 9, donc en Australie, hein, où on a envoyé, nous, une équipe, l'équipe de France senior. Et c'est en fait un gros projet que veut développer existe la Ligue mondiale, donc la Ligue internationale, l'IRN. Et ça c'est un de nos gros projets. L'idée aussi, c'est de poursuivre les discussions avec la Ligue européenne, hein, la RLES, pour le projet de championnat d'Europe des clubs, où on est évidemment très très écouté, très entendu, et puis on est en train de voir avec les responsables dont nous faisons partie, d'installer et d'avoir un projet de championnat d'Europe des clubs. On est également beaucoup axé sur les féminines, puisque ben, vous avez vu, on a mis en place à Toulouse toujours ce Nine, parce que c'était important de valoriser cette compétition. On voudrait aussi développer ce sport féminin qui est si difficile, en tout cas, de stabiliser sur notre territoire. Mais on a quand même, avec l'équipe de France, on le voit, on commence à avoir des résultats. On va les envoyer en Coupe du Monde. Donc on a vraiment des filles qui sortent du lot, et puis qui sont encadrées par d'anciennes joueuses aussi de l'équipe de France féminine, donc qui sont depuis un petit moment. Donc effectivement, on est beaucoup axé là-dessus. On est toujours, puisqu'on parle des équipes de France, nous on est toujours dans la mise en place, on veut toujours faire en sorte que les équipes de France se confrontent à ce qui est de meilleur.
Sur l'équipe de France, on y reviendra.
D'accord, Albert. Bon. Hein, alors, je vais parler plutôt de l'élite. Voilà, les compétitions.
On va y revenir sur l'élite, les finales, l'équipe de France, etc.
D'accord, le médical, alors peut-être, si on veut y revenir, alors peut-être le médical qui est quand même toujours au cœur de nos préoccupations.
Et peut-être l'arbitrage.
Voilà, tout à fait. C'est ça, hein, j'allais faire ces deux points, l'arbitrage et le médical. Donc pour le médical, ben on a énormément travaillé, on a le docteur qui est vraiment hyper performant là-dessus et qui a constitué une équipe là qui va, je pense, beaucoup l'épauler, où on a mis en place énormément de choses sur la formation, hein, avec la formation au premier secours. On veut faire une délégation de compétences aux infirmiers d'État sur les bords de terrain pour ne plus avoir à chercher des médecins, ce qui est très difficile à trouver actuellement pour chaque équipe le dimanche. Mise en place d'un dossier médical informatisé transversal pour les joueurs de haut niveau. On est sur la prévention des violences sexuelles, on est sur la prévention, sur la formation à la performance également, avec le fait d'accompagner les joueurs de haut niveau sur le fait de. Les joueurs, en tout cas de nos pôles et de nos structures, les accompagner mentalement, parce que c'est très difficile pour eux de devenir des joueurs de haut niveau. Et puis il y en a certains qui n'y arrivent pas, donc il faut aussi les accompagner. Au niveau de l'arbitrage, on a commencé à pas mal reprendre les choses en main. C'est vrai que c'était un secteur qu'on avait peut-être un peu laissé, alors pas de côté, mais c'est un secteur qui marchait très bien. Et puis finalement, on se rendit compte que ce secteur-là, arbitrage et délégué, a manqué finalement d'un élu qui s'occupe vraiment d'eux. Et donc on a tout restructuré, on a mis en place une commission d'arbitrage et de délégué, on a développé des écoles d'arbitrage à travers toujours ces conventions d'objectifs, on implique les clubs de plus en plus pour nous fournir des arbitres, ce qui se faisait avant. Hein. Avant, il y avait des arbitres qui appartenaient à des comités aussi, donc je pense que c'est des choses qui sont... sur lesquels on a des propositions, on veut travailler. Donc effectivement, nos arbitres et comment développer l'arbitrage, c'est un de nos gros chantiers. On est aussi au niveau des propositions peut-être financières sur la valorisation financière des championnats aussi. Hein, on a cette proposition-là. Et voilà, rapidement balayer les points de notre programme.
Il faut aller vite, mais on va revenir sur les finales, on va revenir en détail. Tout d'abord, on va marquer une petite pause pour rendre hommage à nos partenaires, et puis on vous retrouve, restez avec nous, on retrouve d'ici une ou deux minutes.
Le rugby à 13 sur Radio Marseillette vous est présenté par
Bardo Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne. Pour la gestion, la location ou la vente de vos biens, Betty Mayergali et Didier de l'agence Bardo Immobilier vous accueillent du lundi au samedi au cœur de la Bastide, 44 rue Jean Bringer à Carcassonne. Pour les joindre, 04 68 25 37 63. Bardo Immobilier, une agence immobilière à votre service sur Carcassonne.
L'épicerie fine chez Julien à Carcassonne vous attend le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h non-stop.
Très large gamme de vins du Languedoc.
Un grand choix de blanquettes.
Un espace fromage en partenariat avec la fromagerie toulousaine du meilleur ouvrier de France.
Et pour vos plateaux entre amis, pensez à la charcuterie et au jambon ibérique ainsi que noir de Bigorre et noir gascon.
Pour réaliser toutes vos idées cadeaux, Corinne et Julien vous réservent un accueil chaleureux.
Chez Julien, 100 chemin de Mâquins à Carcassonne.
04 68 26 34 32.
Radio Marseillaise, ma radio.
Oui. Alors, oui.
Allez, donc on retrouve oui, Madame
Denis,
Albert.
Denis. Juste, je voudrais poser, je voudrais intervenir un petit peu, parce que question que je vais poser va découler après de l'élite et des finances, voilà. Moi, je veux parler au niveau événementiel, puisque vous en avez parlé, et la dernière mandature, l'événementiel, est-ce que vous pensez que c'était une réussite quand on a vu que la dernière finale championne de France, il n'y avait que 450 personnes? Qu'allez-vous faire?
Alors, écoutez, je pense que les choses, on en a fait déjà. On a quand même un bilan de ce côté-là. Après, il faut qu'on se pose tous les bonnes questions. C'est-à-dire que moi, je pense que quand même, au départ, il faut qu'on commence à regarder si on va au match, si les présistes vont au stade. Déjà ça. Parce que quand on voit qu'on a quand même mis en place un regroupement de finales sur le même terrain, donc ça veut dire que souvent, on avait deux, voire même trois finale sur un même terrain. Donc ce qui veut dire 6 équipes, d'accord. Qu'on a fait des entrées à 5 euros pour certains, 10 euros, qu'avec 10 euros on peut voir 3 finales quand même de notre championnat, on a fait la gratuité aux licenciés mineurs de jusqu'à 18 ans. Un moment donné, je crois que le mal quand même du trésiste, et je le dis dans mes réunions, dans les réunions que je fais avec les clubs, quand on n'est pas finaliste ou en phase de finale, on ne va pas au final. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on essaie d'expliquer que les finales soient vraiment l'affaire de tout le monde. Vous savez, il était prévu la finale à Agen. Il y avait des finales à Agen qui étaient prévues au mois de juin de 2020, quoi, cette année, donc qui n'ont pu se faire. Et on avait comme idée de, et on l'avait validé cette idée, hein, c'est-à-dire avec les présidents de l'élite, des clubs d'élite 1, avec la LR, de financer des bus, des minibus pour que les écoles de rugby de toute la France puissent se déplacer sur Agen, assister au final. Bon, on n'a pas pu le mettre en place puisque la pandémie a fait que ça n'a pas fonctionné. Donc ce qu'on se propose de faire, c'est peut-être d'arriver à les co-construire ces finales avec l'ALER, comme on a commencé à le faire l'année dernière, mais également avec les comités et les ligues. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même remettre un peu les choses à leur place, organiser un ramassage pour aller chercher les gens chez eux et qu'ils viennent au final. Voilà, les petits c'est faisable, les grands, les adultes, il faut un moment donné qu'on se pose les questions quand même. Je pense que voilà, déjà commençons par faire notre propre mea culpa, et parce que si tous les trésistes français venaient au stade assister au final, je pense qu'on aurait davantage de monde dans les stades. Surtout que voilà, nous proposons quand même des finales à des prix plus qu'adaptés. Hein, quand on voit que pour assister à un match, peu importe, c'est de 14 de foot, voilà, le plus petit prix de la place, il est à 60 ou 80 euros. Quoi, hein, donc il ne faut pas se leurrer. Voilà. Denis. Voilà ma réponse.
Bien, alors on va aborder le problème des finances, la question des finances, hein, qui est essentielle, hein, évidemment.
Oui.
Alors, dans votre programme et bilan, et dans la partie bilan de votre programme, vous mettez en avant de façon importante le fait que vous avez redressé pendant ces 4 ans les finances de la fédération. Est-ce que vous pouvez là-dessus, nous en dire un peu plus détaillé. Bon, à quel niveau se trouvent les finances aujourd'hui de la Fédération française?
Mais écoutez, vous savez que nous avons récupéré la Fédération en cessation de paiement, hein, et ça a été la grosse découverte quand même de notre, quand on est arrivé aux affaires en juillet 2016, puisque on a des, enfin, nous avons découvert que nous avions moins de 204 000 euros. Donc c'est quand même assez assez inquiétant parce que nous on avait un programme avec voilà des choses à mettre en place immédiatement et puis là quand ça vous tombe sur le coin de la figure et ben il faut voilà il faut accuser le coup. Donc il a fallu faire des choix, des sacrifices et c'est vrai que Marc, Marie Meignot, moi-même chaque fois qu'on a présenté les comptes en assemblée générale au club, il y a eu une transparence totale. On va passer, on passe de 204 000 euros quand on a pris la fédération. On va là être dans sur un résultat financier positif qui va être supérieur à 400 000 euros. Donc c'est quand même, ça a été un gros travail, gros travail de toute l'équipe, de gros sacrifices aussi. Et puis des choix que nous avons fait. Effectivement, bon, je ne sais pas si j'ai le temps de développer un petit peu là par rapport à ça, Denis.
Ah ben oui, vous pouvez.
Oui. Voilà. Oui. Donc peut-être de dire les grosses. En gros, ouais, déjà le fait que ben aucun élu n'a pris de frais. Alors bon, ça me fait un peu rigoler parce que quand je vois mes adversaires, qui notamment un qui met première phrase qu'il met dans sa présentation, c'est servir plutôt que se servir. À un moment donné, aucun élu de la fédération ne s'est servi, bien au contraire. On n'a pris aucun frais de déplacement, suspension complètement des frais. On a mis en place le transfert du siège de Paris à Carcassonne, vous le savez, qui a permis de faire une économie de 200 000 euros sur le personnel. Alors on n'a pas réduit en nombre le personnel, bien au contraire, par contre, on a réduit le salaire parce qu'on ne paie pas une personne à Paris comme on la paie dans le sud de la France. Donc ça a été une économie énorme, avec cependant un service toujours plus performant et toujours plus ouvert, puisque nos bureaux proposent une amplitude d'ouverture de plus de 40% de ce qu'elle était à Paris. Et ce siège, donc, qui nous appartient à Paris, qu'on met en location et qui est, qu'on loue 45 000 euros par an. Donc, ce sont des rentrées financières importantes. Nous avons donc cette baisse, je vous l'ai dit, de la masse salariale. On a repris en main le logiciel des licences quand même, qui avait été délégué à un prestataire extérieur et qui coûtait 300 000 euros. C'était autant d'argent qui n'allait pas sur le sportif, qui allait sur l'administratif. Donc du coup, nous, on a repris en main ce logiciel des licences. On a fait une économie de plus de 200 000 euros parce que quand on l'a monté, ben, on en a eu pour en gros 15 000 euros. Et puis on y rajoute à chaque fois on lui adjoint des fonctions supplémentaires puisque le logiciel de licence est plus que ça maintenant puisqu'il devient un véritable objet de facturation, c'est un logiciel de facturation et de véritable comptabilité pour la fédération. Il y a eu du coup, on a pu effectivement reverser, comme je vous l'ai dit, hein, on a inversé finalement la tendance, hein, au niveau du financier, parce que on peut réinjecter de l'argent véritablement le sportif. Par exemple, la mise en place des conventions de récif. Il faut savoir qu'avant, c'était les comités, vous d'avoir les ligues qui validaient les licences des clubs pour la fédération et étaient reversées en tout à ces comités et ces ligues une somme de 90 000 euros. Alors, toute ligue et tout comité confondu, hein, ce n'est pas 90 000 chacun, bien au-delà, bien au contraire. Par contre, maintenant, c'est la fédération qui valide, donc cette somme-là, elle ne va plus sur les ligues et les comités, en tout cas comme elle y allait. Par contre, avec eux, avec les comités et les ligues, on a mis en place des conventions d'objectifs où on a réinjecté ces 90 000 euros qui étaient déjà qui allaient déjà dans leur finance à eux. Et on a rajouté 110 000 euros. Donc il faut savoir qu'actuellement, il y a des conventions d'objectifs mises en place avec les ligues, les comités, pour une valeur de 200 000 euros par an. Et là, en fait, c'est que cet argent, il est versé sur des actions sportives. Parce que ces conventions d'objectifs, hein, je ne sais pas si vous savez exactement de quoi il en retourne, mais chaque comité, chaque ligue est invité à la fédération au mois de mai-juin. On fait un audit, un peu un bilan de ce qui manque sur le territoire, quels sont les besoins, où est-ce qu'il va falloir sur quoi il va falloir plus particulièrement axer toutes les actions. Vous comprendrez bien que les besoins sur Nantes ne sont pas les mêmes que ceux en pays catalan, que ceux en Rhône-Alpes, quoi, hein. Donc en fonction de ça, des lignes de travail sur le sportif, le développement sont définis, et sur chaque ligne, à chaque ligne est attribuée une certaine somme. Et puis il y a des bilans qui sont demandés, trimestriels, en fonction des bilans, de l'avancée des travaux mis en place par les personnes sur les ligues et les comités, on donne l'argent. Donc c'est pas de l'argent du tout qui est économisé, c'est de l'argent qui va sur le sportif, vraiment.
Fabien Albert, une petite question, puisque vous parlez des ligues et des comités, oui. Dans l'Aude, il y a trois grands clubs d'élite 1, un grand club d'élite 2, des clubs de fédérales. Y a-t-il encore un comité de l'Aude de 2013, apparemment?
Bien sûr.
Ça ne fonctionne pas.
Ah ben si, il y a un comité de l'Aude de rugby à 13 qui est reparti.
On le connaît pas.
Déjà l'année dernière, hein, le président, M. Rodriguez, qui a constitué une équipe jeune donc autour de lui, et qui retravaille avec nous, très en lien avec les conventions d'objectifs que l'on met en place. Et effectivement, on a un comité dans l'Aude, hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est Jacques Rodriguez qui en est le président. Hein. Voilà. Donc, et il y a pas mal de jeunes dirigeants qui sont autour de lui. Et dans ces conventions d'objectifs, justement, le but aussi, c'est de financer des postes d'ATD, d'agents territoriaux de développement. On finance ces postes à hauteur de 40%. Et ensuite, le poste est le complément est fait par les subventions que sont données pour ces contrats, que donnent pour ces contrats la région, les départements. Voilà. Ouais. Donc, ce sont autant de personnes qui vont travailler sur le développement.
Madame Albert. Oui. Vous savez qu'il y a quelque chose qui a choqué. Je pense que la phrase que vous avez citée au début du sujet. Servir plutôt que se servir, c'est une phrase. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui a choqué, c'est le fait que le président Marc Palanque soit rémunéré. Alors, on va pas refaire toute l'histoire, hein, c'est pas l'objectif ici. Mais pour vous, est-ce que vous allez continuer dans cette voie, ou est-ce que
je l'ai dit et je l'ai annoncé depuis le début. Hein. Moi, j'ai un travail. Duquel donc je ne veux absolument pas ni me séparer ni me mettre en disposition, donc non, je ne vais pas prendre de salaire. Par contre, juste pour revenir rapidement sur le fait, alors ça a choqué, je ne sais pas qui ça a choqué, parce que ce sont les clubs qui ont voté la salarisation du président quand même, c'est passé en Assemblée Générale, hein. Donc les clubs ont validé que Marc Palanque soit salarisé à hauteur, on l'a bien expliqué, hein, à hauteur du SMIC, et c'est tout. Ça ne ferait rien. Il faut savoir que quand on est arrivé à la fédération et qu'on a découvert donc la situation que je vous ai décrite, on a quand même trouvé, quand on a fait le bilan, des factures d'élus qui allaient dormir à l'hôtel Georges V à Paris, des frais de remplissage d'essence, des frais d'autoroute, et finalement, on s'est rendu compte que quand même, on était à deux fois, voire trois fois un SMIC déguisé. Donc, à un moment donné, ce qu'a expliqué le président, est-ce qu'il vaut mieux ça? Moi, je prends les faits, voilà. Ou est-ce que vous me donnez ça et puis c'est terminé? Et moi, je suis à plein temps à la fédération. Et c'est ce qu'il a fait, parce que Marc Palanque a été à plein temps à la fédération, vraiment. Donc, effectivement, moi, je ne prendrai pas de rémunération. Alors, j'ai vu que, pareil, on a dit que j'avais copié l'idée. Hein. Franchement, je pense que, voilà, on n'est pas en cours de maternelle. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis attachée à mon métier et pourront vous dire qu'il n'a jamais été question que je prenne un salaire. Par contre, le salaire que prend Marc actuellement dans ce SMIC, on va s'en servir, c'est-à-dire qu'on peut le sortir, d'accord. Et de toute façon, vous savez que quand les candidats ont voté, ils ont voté ça le temps de la mandature de Marc Palanque. Quand la mandature s'arrête, il va falloir que les nouveaux qui seront en place reproposent au club s'ils veulent que le président s'arrête. Hein. Sinon, voilà, ce n'est pas quelque chose qui va courir. Hein. Par contre, nous, mon équipe et moi, hein, donc, avons conscience du fait qu'il va nous falloir avoir quelqu'un qui soit sur recherche de sponsors, de partenaires au niveau de la fédération. Et c'est un emploi, et c'est en tout cas un salaire qu'on va plutôt dédier à cette fonction-là. Voilà. Voilà en ce qui concerne la salarisation.
D'accord. Alors, toujours dans les finances, est-ce que vous pouvez nous dire, là, très rapidement, en grande masse, comment le financement de la fédération, c'est qu'il y a le sponsoring,
Oui, tout à fait. Ben, la fédération, clubs, voilà, la fédération, elle a un budget actuel de 2 400 000. Hein, c'est le budget de la fédération à ce jour. Hein. Et on reçoit du ministère, alors parce que nous aussi on a des conventions d'objectifs hein, en développement et en performance, à hauteur de 475 000 euros. En gros, je vous le dis, voilà, hein, je ne mets pas les centimes. Et on a une aide pour le haut niveau qui est de 45 000 euros. Après on compte évidemment hein, les recettes des matchs, les licences, les engagements, il y en a pour un million d'euros sur l'année. Les amendes, ben ça fluctue en gros, il y a 60 à 65 000 par an qui rentrent en amende. Les recettes des matchs, on est à 200 000. Et puis ensuite, on a les sponsors, Mutuel des Remparts, Via Occitanie, La Forme. On a après du mécénat également, c'est-à-dire que par exemple, il faut savoir que ben, le Barcarès notamment, vous savez, hein, l'endroit où encore on loge nos équipes de France pour les stages, mise en place des stages avec donc l'hôtel du Barcarès, les repas, etc. C'est une valorisation de 10 000 euros par an. Alors, si on ne sort pas la fédération, hein, mais c'est très important. On a voilà le mécénat fait par Little Marcel qui nous habille, c'est 300 000 sur 3 ans. Enfin, voilà, on a aussi cette partie. Mais qu'effectivement, ce qui va nous falloir, je pense, vraiment développer, et on y est dessus, on a déjà de grosses boîtes, disons, qui s'intéressent au rugby à la 13, ça va être justement toute cette partie sponsoring, parce que c'est très difficile, vous le savez comme moi, Marc Palanque qui n'était pas né de la dernière pluie, c'était son métier, hein, tout ce qui était négociation, sponsoring, etc. Sauf que quand on annonce qu'on est en cessation de paiement, quand on arrive, on vous regarde plus de la même façon. Hein, on intéresse moins les grosses boîtes que quand on a maintenant un bilan comme le nôtre. Hein, donc effectivement, ça va être un point majeur de notre mandature.
Et vous allez mettre une équipe enfin, ou des personnes spécialisées là-dessus sur la recherche de partenaires.
Exactement, c'est ça, une recherche de partenaires. Alors qui va pas alors l'idée évidemment, hein, c'est que bon, vous savez, on est basé à Carcassonne. L'idée c'est pas d'aller chercher des partenaires forcément dans la région. Bien au contraire, puisque ces partenaires-là, ce sont nos clubs qui en ont besoin avant nous. Mais c'est d'aller chercher vraiment de gros partenaires au niveau du territoire national. Hein, donc effectivement, on va avoir besoin d'avoir quelqu'un à plein temps sur ce poste-là.
Alors Fabien Albert, au niveau partenaire, ça va être lié. Qu'allez-vous faire pour les médias? Parce que les médias jouent un rôle extrêmement important Malheureusement, à 13 médias, il n'y en a pas beaucoup. Le seul média, je vais vous faire un peu de publicité, gratuite, hein. Le seul média qui a à nouveau radio, c'est Radio Martiette, qui n'est pas trop aidé. Mais bon,
alors, il y a Bleu Roussillon aussi, quand même. Il y a Bleu Roussillon qui fait, oui, quelques, qui fait des émissions le jeudi. Hein. Oui, mais effectivement, donc, pas forcément sur le championnat français, mais bon, il parle du 13, disons. Hein, voilà.
Oui, oui, nous faisons l'émission, nous, le vendredi. Le samedi et le dimanche, nous transmettons des matchs. Mais pour qui est des sponsors, il faut des médias. Avez-vous un projet là-dessous?
Ben, vous savez que déjà, on a un gros partenariat avec Via Occitanie. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu là actuellement, mais on va diffuser un match tous les week-ends, hein, de l'élite 1, là, qui va être diffusé sur Via Occitanie. Donc c'est un gros partenaire. Et je peux vous dire que c'est un partenaire. Alors on dit, ouais, Via Occitanie, la TNC, tout ce qu'on veut, sauf que il faut savoir que, par exemple, nos arbitres, parce que sur leur maillot, ils s'étaient trouvé un sponsor qu'ils avaient mis sur leur maillot, hein, c'était Geoffrey Poumès qui était à l'initiative de ce travail, parce qu'ils sont passés sur Via Occitanie, ils ont été plébiscités, ils ont été hyper contents et ils repartent avec eux à nouveau. Donc je veux dire, il n'y a pas de piètre média, hein, voilà. Via Occitanie, c'est un super média sur lequel on va s'appuyer. Et ils sont en train de fusionner avec BFM TV. Donc ça, c'est clair que là-dessus, nous, on est hyper contents du partenariat. Après, vous le savez, on a télévisé des matchs, des finales notamment, mais sur l'équipe, hein, vous l'avez vu. L'équipe nous avait pris en début de mandature des spéciales à téléviser. Il faut savoir que voilà, hein, l'équipe pour téléviser du 13, eh bien, demande des ronds. C'est-à-dire que pour un championnat de France, pour un match, ils demandent 20 000 euros. Au Dragon, ils leur en ont demandé 50 000 euros. Donc à un moment donné, comme vous dites, le 13iste, lui, fait sa redevance TV comme tout le monde. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Hein. On n'a pas accès aux médias. Et moi, je pense qu'il faut se poser la question inverse. Je pense qu'on a un sport qui fait peur. On a un sport qui fait peur, qui est hyper attractif. C'est un super sport à voir. Et on voit bien quand même.
Hein, il fait peur à qui?
Il fait peur à nos cousins, notamment, je pense. Hein, hein. Oui, parce que je pense qu'on peut rivaliser. Franchement, on peut rivaliser avec certains matchs et largement.
On vous entend très loin. Hein.
Allô?
Oui, on vous entend très loin.
Ah,
dépendant. On vous entend très bien.
Bon, d'accord. Donc, du coup, je disais que oui. Oh, ben c'est bien. Du coup, je disais que oui, je pense qu'on fait peur. On fait peur parce qu'on le voit quand on regarde les matchs de NRL, quand on regarde les matchs de Super League, que ce soit sur Bein et toutes les chaînes câblées, il y a énormément de spectateurs. Je crois que si on nous laissait la place, on a vu la dernière interview de Romain Ntamack, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand il se fait interviewer, il dit quel est le sport que vous. Il parle du rugby à 13, hein, c'est un sport qu'il a envie de pratiquer. Donc je veux dire que le pas, il est très court entre rugby et l'autre. Hein. Et effectivement, je crois qu'on est verrouillé quand même. Alors on peut, on continue, hein. Il ne faut pas croire qu'on arrête d'aller voir les gros médias, mais c'est vrai que bon, je pense qu'on est verrouillé par. Après, c'est une question, c'est politique, hein, tout simplement. Hein. Je pense que voilà, on a des gens qui font en sorte qu'on ne soit pas télévisé. Mais bon, ça fait partie du jeu, mais ça ne va pas nous empêcher de travailler. Et la preuve, on a trouvé ce partenariat qui est quand même hyper satisfaisant.
Denis.
Oui, ben, écoutez, j'avais une question encore sur les finances, sur le centre d'Alzone, mais on en parlera du centre d'Alzone dans le haut niveau. Donc on va observer notre deuxième pause et, publicitaire. On se retrouve d'ici 2 minutes.
Le rugby à 13 vous est présenté par
Comptoir des Vins et Terroirs. Dans ce lieu élégant et chaleureux, Stéphanie vous accueille pour vous satisfaire et vous faire partager sa passion des vins du Languedoc. Elle vous les fera découvrir tout en discutant de nos mets régionaux. Elle vous fera apprécier l'esprit de notre région où le vin est naturellement notre rapport à la terre, notre mémoire et notre culture.
La SARL Berger Frères de l'étang de Marseillette vous propose ses fruits, légumes, produits régionaux, ses jus de fruits, confitures, miel, riz, huile, olives, mais aussi viande, charcuterie, fromage et produits laitiers. Pour des produits de qualité au meilleur prix du producteur au consommateur, la bonne adresse sur Carcassonne, SARL Berger Frères, boulevard Denis Papin, zone industrielle La Bourriette à Carcassonne, 04 68 47 68 77, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Brasserie Le Donjon, à quelques pas de l'hôtel du Donjon, en plein cœur de la cité médiévale de Carcassonne, alliant la magie d'un lieu chargé d'histoire et de saveurs de notre terroir. Éric Bivin aura à cœur de vous concocter et de vous servir des mets traditionnels régionaux dans ce relais du pays cathare, à déguster en couple, en famille, en groupe ou en vacances.
Allez, on retrouve Fabien Albert en direct sur Radio Marseillette. Alors on va parler un peu du haut niveau, hein, et donc alors dans le haut niveau, moi j'ai mis un peu évidemment l'équipe de France, les pôles, enfin et on peut parler bon, avec les pôles également du centre de la zone. On va commencer par ce centre de la zone puisqu'il va faire le joint avec les finances. Est-ce que vous pensez que c'est un projet viable à long terme, ce projet?
Ben oui, je le pense et j'ai pas été la seule à le penser d'ailleurs, hein, parce que vu le financement qu'on a obtenu et de l'État et de la région et des départements, je pense effectivement que c'est plus que viable. C'est vraiment un projet sur lequel on compte et auquel on croit énormément et auquel nos élus croient beaucoup, hein, puisqu'il n'y a pas eu photo, hein, quand il a fallu voter les subventions. Et on a encore, j'étais là quand on a été au ministère voir Claude Onestin, hein, qui est responsable qui est lui président de l'ANS. Qui nous a vraiment félicité pour la qualité de ce projet et d'ailleurs qui l'a accompagné avec une aide sans précédent, hein. On a reçu quand même une subvention du ministère de 1 200 000, quoi, c'est du jamais vu pour le rugby à 13. Donc oui, on y croit à fond.
D'accord. Et il pourra être occupé, vous pensez qu'il aura un taux d'occupation suffisant pour qu'il soit rentabilisé?
Ah ben écoutez, c'est clair, on calcule, alors par rapport au modèle économique, hein, il faut savoir que ce centre, on a compté donc qu'il y aurait tous les élèves et les sportifs, hein, qui auront le projet, puisque ce sont des jeunes qui seront sur qui auront le double sportif et scolaire et sportif. Double projet, pardon. Et donc du coup, entre ça, l'occupation de ces jeunes, plus les stages équipes de France, toutes les équipes de France confondues, plus stages, les stages arbitres aussi qui sont planifiés, qui ont lieu dans ce centre, il va rester en fait ce centre 120 jours sans être occupé. Mais par contre, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on intéresse énormément de personnes, puisqu'on a été inscrite par la région sur la liste des centres pouvant accueillir les équipes qui préparent les Jeux Olympiques, hein, 2024. On se positionne aussi sur la Coupe du Monde du rugby à 15, 2023, sur des stages de préparation d'équipes nationales ou des clubs, sur des séminaires d'entreprise. Il faut savoir qu'on a un centre qui est adapté quand même à l'accueil de tout public, c'est-à-dire qu'on l'a pensé ce centre, et ça c'est quand même Marc beaucoup qui a été sur ce qui va être construction, hein, vraiment de élaboration et avec Mathieu Quesini, c'est ceux qui ont porté vraiment le projet dans le détail. Il faut savoir que ce centre, il va pouvoir accueillir aussi des handis. Et que donc notre équipe de France fauteuil, nos équipes de France et puis les paras, etc., pourront faire les stages là-dedans. On a un gymnase qui peut accueillir, pareil, qui est aux normes de gymnase tel qu'il doit être, qui va pouvoir accueillir toutes ces équipes-là. Donc oui, on croit vraiment que le modèle économique tiendra la route sans problème.
Et alors, puisqu'on parle, on est dans le, on parle du haut niveau. ce centre ne remet pas en cause l'existence des pôles qui existent aujourd'hui.
Ah non, absolument pas. En fait, ce centre, il va nous permettre de le structurer sur un niveau encore plus. C'est-à-dire qu'on va partir, on a les deux pôles, on connaît les pôles espoir de Carcassonne et de Salon de Provence, dont sortent de très grands joueurs. Hein. Et puis on sait aussi que le Crêpes de Toulouse, qui était le pôle France, en fait, on va faire ce pôle France, on va le transférer sur Alzone. Par contre, le Crêpes de Toulouse, on va y mettre le pôle France universitaire. Quelque chose qui nous manquait et qui va servir, je pense, de modèle pour installer des pôles universitaires un petit peu dans toutes les universités de grandes villes où il y a des universités qui sont nombreuses. Hein. On pense à Paris, on pense à Lyon, on pense à Bordeaux, on pense à Nantes, enfin voilà, il y a Montpellier bien sûr. Donc le Crêpes de Toulouse va porter ce pôle France universitaire, effectivement.
Alors, pour parler de l'équipe de France, alors évidemment, le haut niveau, ce sont les équipes de France. Hein,
oui, j'allais vous reprendre. C'est bien ça, oui, les équipes de France.
Alors, c'est vrai, comme on n'a pas le temps de parler pour toutes les équipes de France, c'est vrai. Bon, l'équipe de France masculine, c'est quand même la vitrine. Il y a une Coupe du Monde. Alors, pour les trois, il y a la Coupe de fauteuil féminine et masculin, il y a la Coupe du Monde en 2021, si le Covid ne vient pas au milieu, mais. Voilà, vous pouvez vous exprimer sur les autres, hein, mais par rapport à cette vitrine de l'équipe de France masculine, comment faire pour aussi bien par rapport aux relations entre la fédération et les deux clubs professionnels qui sont les Dragons catalans et le Théo, on a vu qu'il y avait des difficultés pour des fois libérer des clubs, des joueurs, etc. Et ensuite, comment faire également pour que les joueurs d'élite parviennent à intégrer ce très haut niveau qui nécessite l'équipe de France?
Vous savez, ben voilà, par rapport à ça, on a fait cette stratégie de planification pour les échelles internationales. Donc on est parti d'un volant de 60, pratiquement 60 joueurs, hein, depuis qu'on est là, avec les joueurs pro d'un côté et les joueurs sur une équipe de suivi. L'équipe de suivi, c'était plutôt les joueurs qui étaient sur l'élite 1, hein, effectivement. Donc, par rapport à cette stratégie de planification, le groupe, il se resserre. Hein, le groupe, il se resserre pour arriver à une équipe de France qui va être celle qui va nous représenter à la Coupe du Monde. Alors après, je pense qu'on a montré en envoyant l'équipe de France au Nine en Australie que était très bien intégré d'équipe des joueurs d'élite. Hein. Il y a des joueurs d'élite qui ont une totale satisfaction. Donc pour l'instant, les deux sont très imbriqués. Et quant aux relations avec et la mise à disposition des joueurs de nos équipes du Théo ou des Dragons, ce qu'on peut dire de toute façon, c'est qu'on a un protocole qui est signé, hein, avec les deux équipes. Après, entre en jeu évidemment les problématiques de blessures de joueurs, et puis il y a aussi un entraîneur qui il l'a dit quand on les a reçus au siège. Il y avait l'entraîneur de l'équipe de France, Aurélien Colonni, Marc Palanque, j'étais présente également, il y avait Mathieu Pignini, qui a dit clairement qu'il n'en avait rien à foutre de l'équipe de France. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a des choses comme ça qui ne peuvent pas s'entendre. C'est malheureux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà de ça? Voilà. L'entente avec les présidents se passe très bien, il n'y a pas de souci. Je pense que les joueurs, autant ils n'étaient pas chauds pour venir quand on a pris la fédération, parce que le vécu qu'ils avaient, c'était on se retrouve juste 15 jours avant les matchs, on n'a pas des qualités d'entraînement suffisantes, il n'y a pas de suivi. Tout ça, ça a été, on l'a replanifié, hein, en restructurant les staffs médicaux, les staffs sportifs, en faisant un gros travail transversal. Donc, oui, de toute façon, on va continuer à négocier, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est à négocier seulement. Quand on a des joueurs français qui jouent dans des grands clubs comme ça, il faudrait même que ça coule de source que de les libérer quand on a quelque part l'équipe nationale qui nous tient à cœur.
Vous avez raison. Mais quand on voit dans les Dragons catalans combien il y a de Français qui jouent chaque week-end? Il y en a trois maximum. Qu'est-ce que vous voulez que les autres aient un niveau? Ils n'ont pas, je ne sais pas, mais ils n'ont pas la préparation, ils n'ont pas le niveau. Quand on regarde.
La préparation, ils l'ont, je vous l'ai dit, la préparation, ils l'ont.
Les matchs qui leur manquent. Rien ne vaut le jeu.
On est d'accord, mais alors là.
Vous n'y êtes pour rien.
Bon, Roger, si je pouvais faire l'équipe, vous le savez, je la ferais.
Après,
c'est une politique, c'est une politique de club. Il faut accompagner et bon, je pense pour l'instant. Après, je comprends aussi. Hein, bon, je parle des dragons parce que les dragons sont ceux qui évoluent au plus haut de notre rugby. Mais je comprends aussi qu'il y a une question de visibilité. On le sait, les étrangers, ça a toujours énormément apporté. Et c'est pareil pour l'élite.
Est-ce que la montée du Théo n'aiderait pas justement à avoir plus de joueurs
On est derrière, vous l'avez vu, on a soutenu l'initiative et de suite, dès qu'on a vu qu'il y avait cette demande et cette proposition du Théo, moi j'ai appelé Bernard Sarrazin et je lui ai demandé si on pouvait récupérer son clip, notamment sur le clip qui est super bien fait là, par rapport à ça, sur le site de la fédération. Et puis on est derrière, on accompagne, parce que effectivement, plus on aura de clubs qui vont évoluer à ce haut niveau, mieux ce sera. Mais ce qui est sûr, en tout cas pour l'instant, c'est que la philosophie pour l'instant de la politique des clubs de haut niveau n'aide pas en tout cas l'équipe de France à devenir plus forte. Alors si on a comme je le disais, on a des jeunes qui sont hyper bien physiquement préparés, mais vous l'avez dit, rien ne vaut la confrontation.
Alors, dernier point, et Denis, tu m'excuseras, dernier point, sur si ces deux équipes en Super League, ils vont vider les clubs d'élite des meilleurs joueurs. Alors, est-ce que les gens vont se dire, ils ne joueront pas, mais en attendant, ils ne joueront peut-être ni dans le championnat français, ni en Super League. Alors, est-ce que les gens vont se dire, tous les bons soldats et le championnat, peut-être...
Justement, par rapport à ça, peut-être... C'est sûr, mais peut-être il y a nous aussi à faire, et c'est un de nos projets quand même. On est sur le projet du pacte d'ambition collective, où nous, l'idée aussi, c'est de contractualiser des joueurs qui sont sélectionnables en équipe de France, de les contractualiser avec les clubs d'élite, parce que pense que moi, pour ma part, si en élite 1, on avait dans chaque club d'élite 1, 3 voire 4 joueurs français, je dis bien français, qui soient professionnels, ça nous ferait quand même un gros volant de joueurs, ça permettrait peut-être à nos jeunes de revenir, d'avoir des qualités d'entraînement et puis de pouvoir jouer tous les week-ends, quoi, parce que c'est ça aussi. Donc c'est peut-être aussi la solution, mais en tout cas c'est une des solutions qu'avec l'équipe on est en train de travailler et qu'on partage à chaque fois que je fais mes réunions avec les clubs. Voilà. Donc
Denis,
je pense que la solution, elle est là.
Denis, j'ai découpé la chique. Excusez-moi.
C'est très bien parce qu'en plus, c'est un point, cette contractualisation des joueurs éventuels, des joueurs d'élite 1, c'est une question que je voulais poser, donc j'ai la réponse. Hein. C'est très bien, merci Roger. Alors on va justement...
Il y a retour, Denis, on arrive à 1h05.
Hein? Non, pas encore. On est à 54 minutes. Je chronomètre. On va terminer avec le sujet sur l'élite, qui nous tient particulièrement à cœur, à nous, à Radio Marseillaise, parce que nous sommes tous les dimanches, comme Roger l'a dit tout à l'heure, sur les terrains de l'élite, une ou deux, et même parfois sur l'autre côté.
Nous sommes nous tous les week-ends,
pas que l'élite, d'ailleurs.
Non, on va ailleurs, mais c'est vrai sur les... Alors, ça nous pose une question, vraiment, comment peut-on arriver, parce que c'est vrai, c'est vrai qu'au niveau de l'élite, on voit de beaux matchs, les joueurs font des efforts considérables, les dirigeants des clubs aussi, je crois qu'il ne s'agit pas de remettre en cause pas du tout ces personnes-là, les bénévoles, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait 10, alors ça vient pas depuis votre mandat, hein, ça remonte à 10, 12, 15 ans, depuis une quinzaine d'années, le public ne cesse de diminuer. Et bon, vous avez abordé tout à l'heure le problème des finales, mais c'est le cas des Magic Weekends, tous les événements ne prennent pas, les derbies n'attirent plus grand monde. Donc est-ce que le problème n'est pas ailleurs? Est-ce que le problème, c'est pas aussi que notre élite... Alors, moi, je peux apporter également, bon, je m'excuse d'être un peu plus long, mais tant pis, après, je vous laisse la parole. Nous sommes le seul sport en France où les trophées de champion de France et de coupe de France de leur derby sont donnés aux vainqueurs de l'élite, alors qu'il y a deux clubs au-dessus qui sont professionnels, et alors qu'en élite, il n'y a pas d'autre sport en France, ni peut-être dans le monde, ou dans ce qu'on appelle l'élite, il y a deux réserves de clubs qui sont au-dessus. Donc tout ça fait que on est quand même dans une configuration qui fait que le public, il a l'impression qu'il veut voir des événements, il va voir les Dragons, il va peut-être aller voir le Théo qui monte en Super League, et puis il se dit, bon, l'élite, c'est la troisième ou la quatrième division. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est tout notre problème quand même. Je prends l'exemple, et on en a beaucoup parlé hein, souvent avec d'ailleurs le président de Saint-Estève 13 catalan. Quand on voit le monde qu'il y a sur Brutus, et même au Théo, hein, parce qu'il faut ils ont du gros public, hein, les Toulouse, hein, l'équipe qui joue en championship. Par contre, effectivement, le dimanche, quand c'est Saint-Estève 13 catalan qui joue, eh bien, il n'y a personne. Il y a peu de monde, en tout cas. Et c'est quand même dommage. Ça veut dire que la mentalité du Trésis, elle a changé aussi. Avant, on se régalait d'aller voir jouer les jeunes du CRU, les jeunes français. On se régalait d'aller voir évoluer, parce que c'était ça quand même, hein, pour beaucoup. Hein. Et puis là, on a l'impression qu'on est tourné finalement... ces compétitions qui sont des compétitions à l'étranger, parce que c'est
mais Fabien Albert, est-ce que c'est ce qu'on voit à la télé, au football, au rugby à 15 et dans tous les grands sports, et nous en face au rugby à 13, on a quelques matchs à opposer, mais il suffit de voir la dernière fois que le stade Albert Domecq a été rempli de 5000 personnes, c'est quand il y a eu un match avec les Chevaliers Qatar ou deux matchs qui n'avaient aucune signification sportive contre les Dragons catalans. Donc est-ce que là-dessus il n'y a pas, est-ce que vous avez un projet vous là-dessus ou pour, alors c'est sûr mais que ça ne fait pas un claquement de doigts, mais est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt?
Tout à fait. Mais le projet y est. Le projet, je vous ai parlé tout à l'heure de la discussion avec la RLES pour le projet de championnat d'Europe des clubs. En fait, ce projet de championnat d'Europe des clubs, il est en train d'évoluer et nous, en tout cas, on essaie de le tirer là-dessus, c'est d'en faire un championnat d'Europe finalement des provinces. Des provinces avec des équipes qui soient comme ben, les Chevaliers Qatar, vous l'avez dit, mais on va pouvoir aussi avoir les équipes, l'équipe sur Toulon, Avignon, etc., portées par des grandes villes. L'idée, effectivement, c'est de reproduire ce qui s'était fait et de le démultiplier sur 8 endroits sur notre territoire. Et c'est vrai qu'avec des clubs qui puissent se... Ben là, par exemple, les Qatars, c'était Limoux, Lignan, Carcassonne. On peut faire quelque chose de pareil au niveau de Toulouse, Albi. Toulouse, Albi et Saint-Gaudens. Voilà, il y a quand même des projets comme ça qui pourraient être réalisables. On a vu que c'était des projets qui plaisaient, vous l'avez dit, aux spectateurs, mais qui plaisaient aussi énormément aux responsables de département et de région qui abondent financièrement énormément sur la création de ces équipes. Ils y ont cru, hein, au Qatar, vraiment. Après, quel a été le problème à nouveau des Chevaliers Qatar, je vous le donne en mille, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui ne se sont pas entendus. Voilà, oui, voilà le problème de notre terrain quand même. Voilà, quand même, c'est là que ça réside un peu. Hein. Et c'est dommage, parce que c'était une aventure formidable, hein, d'avoir ces trois équipes-là avec une sélection, c'est vraiment super. En plus, on peut se le dire, on a un aéroport à Carcassonne, on a vraiment les installations qui...
On a tout ce qu'il faut.
Mais tout ce qu'il faut. Et il manque plus que les gens s'entendent, parce que même, on va là, on a tout ce qu'il faut, même au niveau des financements. Je veux dire, on nous l'a montré, mais c'est une histoire de personne. Hein.
Ouais. Fabien Albert, moi j'ai fait un rêve, vu mon âge, je révèle n'importe quoi. Moi j'ai fait un rêve qu'un championship, bon, on connaît deux clubs d'élite, deux grands clubs en Super League, et pourquoi pas, ce que les Anglais vous voudraient bien, ça m'étonnerait, pourquoi pas on n'aurait pas, par exemple, Albi, Avignon et Aude Rugby League, si les clubs s'entendent, en championship. On aurait cinq équipes pour vraiment de haut niveau. Est-ce qu'on peut rêver de ça?
Mais moi, on en rêve tous, hein, on en rêve tous. Par contre, ce dont on rêve aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier pour cela les équipes et le championnat domestique. Hein, parce que c'est ça qui fait quand même la fédération qui fait qu'on ne perd pas tous ces jeunes. Parce qu'on sait bien, dès qu'on va monter des équipes pour aller au championship, comme vous le dites, on va s'équiper d'étrangers, on ne sait pas faire autrement. Je pense que vraiment, ça, c'est quelque chose qui... c'est un peu dommageable, il en faut, hein. Il en faut, c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on va pas tomber sur l'excès inverse de se retrouver de nouveau avec des équipes où les jeunes vont s'entraîner? Donc, ces projets, oui, moi, ils sont viables et je les porterai à fond, mais à condition que derrière, on ait au moins une équipe espoir, une équipe 23, qui puisse jouer, qui puisse représenter la même équipe dans le championnat élite, comme le fait le Théo et comme le fait Toulouse. Hein. Parce que c'est ça qui est important. Par contre, je pense qu'on en a les moyens, parce que, vous l'avez dit, hein, moi je crois que si Albi Sengo arrive à s'entendre à un moment donné pour une équipe de ce style, on sait très bien qu'il pourra y avoir derrière une équipe de jeunes qui puisse faire le championnat français, qui soit un peu l'antichambre de cette grande équipe qui pourrait naître. Quoi. Moi, c'est... Effectivement, ça serait la solution, parce que ça donne en plus de l'espoir à nos joueurs français de pouvoir aller jouer encore plus haut niveau. Vous savez, je pense que la meilleure, la plus belle expérience qu'on ait connue pour ces jeunes, hein, parce que moi je pense beaucoup aux jeunes joueurs, c'est les U19 des Dragons Catalans quand même. Ça a été une expérience, je pense, magique pour eux, mais ça a été aussi l'occasion pour le rugby à 13 français de récupérer dans son élite énormément de joueurs qui sont passés par cette formation-là, qui avaient été déjà de grands joueurs dans leur club, parce qu'ils sont passés par les pôles, etc., mais qui, derrière, avec cette confrontation permanente tous les week-ends contre des clubs étrangers, eh ben, se sont aguerris et ont fait des joueurs formidables qu'on retrouve actuellement dans notre élite, quand même. Voilà, donc je pense que oui, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe et qu'on arrive à inculquer, mais comme l'a dit Denis, ça se fait pas en un an. Là maintenant, on a une fédération qui financièrement est assise. D'ailleurs, je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'il y a autant de monde qui pointe le nez au balcon, quand même, à la fenêtre, parce qu'il y en avait moins qui voulaient la prendre il y a 4 ans, et là qu'il y a un peu d'argent, il va falloir qu'on fasse attention, mais ça va permettre quand même aussi de pouvoir rêver à des projets, de commencer à installer ce type de projet.
Denis, alors, je
voulais, pour terminer, juste une question, parce que j'ai plus tous les programmes, juste une question que vous n'avez pas abordée, c'est que, alors vous avez certainement oublié, c'est que apparemment, si j'ai bien compris, vous prévoyez de récompenser d'une certaine façon, si vous êtes élu dorénavant, de récompenser les vainqueurs ou les finalistes, enfin je ne me souviens plus trop.
Les finalistes. Les
championnats.
Tout à fait. Je l'ai dit, la valorisation financière des championnats, c'était un de nos points. Alors, c'est une proposition qu'on mettra au vote des clubs, parce que ça va, il y a une certaine somme qui va être dépensée. Pour ça, c'est une dépensée en tout cas qui ne rentrera pas. L'idée, c'était effectivement de valoriser les finalistes, les deux, des différents championnats, élite 1, élite 2, DN, fédérale, féminine, enfin, on est même jusqu'au U17 par rapport à ça. Donc ça, alors ça serait pas au départ, parce qu'on en discute beaucoup, hein, au sein de l'équipe, ça serait peut-être pas une valorisation sous la forme d'un chèque qu'on va faire, je dis n'importe quoi, allez, 10 000 euros pour le vainqueur de l'élite 1, mais par Par contre, ça sera de l'argent qu'on va leur leur enlever et qu'ils n'auront pas à sortir sur l'engagement de l'année d'après. Engager un club en élite 1, c'est 20 000 euros. Hein. Donc, on pourrait imaginer que le finaliste vainqueur et le club vainqueur ne paieraient pas cette somme. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on le voyait. Vous savez, on a fait une aide au club qui a été conséquente, hein, là, par rapport à... Au Covid, là, peut-être si je peux en dire juste un mot, parce que je sais qu'on est pressé.
Oui, vite fait.
On a quand même, heureusement qu'on a eu les finances telles qu'on les a actuellement, parce qu'on a quand même fait du fait une aide au club de 468 000 euros. C'est énorme, et il faut savoir que si ce Covid était arrivé en 2016, eh bien, on a un paquet de clubs qui auraient crevé, hein, parce qu'on n'aurait pas pu abonder à hauteur de cette somme-là. Donc, je pense que voilà, il faut penser à tout, quoi. Il faut penser à tout.
Merci. Très bien, on va remercier. Oui, Denis, il faut.
Oui, non, ben, voilà, merci, Fabien Albert. J'ai chronométré, par rapport à la semaine dernière, à 2 minutes près, nous sommes...
Et puis peut-être, Denis, que si jamais les élections sont reportées, on ne sait pas, hein, bon, l'avenir nous le dira, avec le Covid, bon, peut-être qu'on pourra... refaire d'autres émissions pour toutes les listes, on verra. En tout cas, merci Fabien Albert.
J'espère que vous avez pu vous exprimer clairement sur l'ensemble des sujets qui vous tenaient à cœur.
Ben écoutez, voilà. C'est en une heure, je pense qu'on a balayé pas mal de choses, donc je vous remercie. Effectivement, pour ceux qui veulent en savoir davantage, ben, il faut assister aux réunions que je fais, ben, par visio, hein, puisque actuellement c'est compliqué, on ne peut pas se déplacer. Donc il n'y a pas de souci, on a encore de programmer. Il suffit de voir sur notre site Très Unis, mettre un message, je souhaiterais assister à une réunion et on vous donnera le lien de la visio qui est prévue.
Hein? Très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci à vous. Mais avec plaisir, Denis, avant de terminer, bon, on va donner quand même, il y a du rugby à 13 ce week-end sur Radio Marseillaise.
Eh oui, il y a du rugby à 13. Alors, peut-être demain après-midi, sur Roger, tu seras à l'antenne pour faire à partir de 17h, pour faire un point régulier sur le match qui va opposer Saint-Estève 13 Catalan. Au Toulouse Broncos, c'est-à-dire les deux réserves des deux clubs des Dragons Catalans d'un côté et du Toulouse Olympique de l'autre. Si nous avons un interlocuteur du côté de Lézignan qui fait le déplacement du côté de Villeneuve, je sais que Roger, tu t'affaires beaucoup pour en trouver un, eh bien, à 16h, moi je serai à l'antenne à ce moment-là, en tous les cas je serai disponible pour pouvoir faire des points réguliers. Donc Nicole, nous te dirons demain à la journée si tu peux. Pour l'instant, nous n'avons personne. Hein. Donc pour l'instant, le coup d'envoi, c'est 17h. Mais si d'ici demain, Roger...
Demain matin à midi, je serai. Voilà.
Donc peut-être à partir de 16h, parce qu'on tiendrait, nous, à vous tenir informés de ce qui va se passer dans ce duel des Verts et Blancs entre Villeneuve sur l'autre et le Football Club Lézignan. Villeneuve... les deux équipes vont débuter la saison, puisque la semaine dernière, elles n'ont pas pu jouer, puisque leurs adversaires étaient handicapés, étaient touchés par le Covid. Donc c'est le début de la saison des deux clubs verts et blancs. Une équipe de Villeneuve qui s'est beaucoup renforcée. Lézignan aussi, qui avait le retour d'Aurélien Coroni, l'arrivée de Gouache. Il y a beaucoup, une équipe qui va être très costaud, donc ça nous intéresserait de pouvoir au moins donner des points réguliers également sur cette rencontre. Et puis dimanche après-midi, nous vous donnerons des larges extraits du déplacement de Carcassonne 13 à Saint-Gaudens. Donc vous pourrez écouter ce match, peut-être pas en intégralité, mais dans tous les cas de larges extraits sur Radio Marseillette à partir de 15h dimanche. On aurait aimé aussi, en même temps, vous donner des informations sur le déplacement du 13 Limousin à Palou, à 15h dimanche, mais là...
Mais ce sera impossible, Denis, parce que, bon, on ne répond pas, Limoux, j'ai appelé le président, il ne répond pas, donc il n'y aura pas de match. Apparemment, Radio Marseillette ne l'intéresse pas, le 13 Limousin, et bien nous, on va plus s'intéresser au 13 Limousin. C'est dommage, hein, bon, je viens de me dire, de me donner le numéro et... appelé, mais bon, Denis, tu te régaleras de faire un Saint-Gaudens Carcassonne fort prometteur. Voilà.
Voilà, donc maintenant, on vous donne rendez-vous demain après-midi, soit à 16h, soit à 17h. Hein.
Voilà. Voilà. Très bien. Voilà.
Voilà, bon,
ben, et on redessine Nicole, on a un peu débordé. Vous savez, après, on déborde beaucoup, hein, les alliés. Hein. Bon, on court tellement vite que, bon, pour faire 100 mètres, on y met 4 heures.
Voilà.
Voilà. Merci Nicole.
Merci. Avec Nicole, plaisir, merci. À demain.
Merci à tous.
Merci encore, Fabien Albert. Merci de venir. Au revoir, à demain. Au revoir.